Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle Nadalette, j'ai 68 ans. Avant, j'étais une Wonder Woman, une fille qui réussissait absolument tout dans le monde du business, à l'international, très jalouse de ses prérogatives de réussite sociale et financière. J'étais par ailleurs aussi mère de trois filles merveilleuses et puis une amie très fidèle avec tout un nombre de gens avec lesquels j'aimais discourir, faire la fête, voyager, partager. Et depuis le 14 octobre 2014, je suis une rescapée, je suis toujours mère et toujours féministe. Je m'appelle Nadalette. Déjà, s'appeler Nadalette à la naissance, c'est pas forcément un cadeau, parce que ça marque quelque chose qui n'est pas dans la norme. Le reste de la vie a un peu suivi. Nadalette, ça veut dire Noël. En patois de Périgord, c'était le prénom de ma grand-mère, et mes parents ont lâchement profité du fait qu'un bébé ne peut pas s'exprimer pour me donner ce prénom. J'aurais bien aimé avoir le prénom de tout le monde. Et puis, à l'âge venant, j'ai trouvé ça bien pratique et tout à fait agréable de savoir qu'il y a une Nadalette, une seule, une vraie, et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai une famille un peu compliquée. Toujours est-il que très jeune, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie, parce que j'étais absolument convaincue d'une chose, c'est que l'ascension sociale et la réussite financière étaient ce qu'il fallait avoir. Donc il ne s'agissait pas du tout pour moi d'écouter mes rêves, de savoir ce que j'avais envie de faire ou qui j'étais ou ce qui m'animait profondément. Non, ce dont j'étais convaincue, c'est qu'il fallait absolument que je gagne ma vie, que je la gagne très bien et que ça allait me donner une liberté par la suite de faire tout ce que je voulais. Et j'ai très bien réussi, très bien gagné ma vie, mais j'avais toujours quelque chose en moi qui me disait « c'est bien, mais en fait, ce sera mieux demain, demain j'aurai un meilleur job, demain je vais aller en vacances dans un endroit plus chouette, demain je vais acheter un appartement qui va me convenir mieux ». Une forme d'insatisfaction dont je ne savais pas très très bien à quoi l'attribuer, mais je savais que moi, j'étais quand même depuis l'enfance une survivante, parce que mon frère jumeau était mort à la naissance dans des circonstances mystérieuses qui n'ont jamais été élucidées. Donc, une volonté de survivre, qui je crois est quelque chose qui m'a toujours animée et qui était déjà très farouche. J'ai changé de type de métier quand j'en avais marre d'un. J'ai beaucoup voyagé. Je me suis très très vite intéressée au réseau de femmes, étant bien convaincue pour l'avoir vécu que être femme dans le monde de l'entreprise, qui quand j'ai démarré dans les années 80-85 était encore plus patriarcal que maintenant. C'était pas évident et qu'il était absolument nécessaire qu'on ait cette solidarité, cette sororité entre femmes et aussi ces espaces pour se retrouver et parler entre nous pour monter en puissance. Et ensuite, à l'âge de 36 ans, grande découverte, je deviens mère en plus de jumelles. Et moi qui ne savais absolument pas ce qu'était un bébé et qui n'avais jamais envisagé même d'être mère, à partir du moment où les deux filles ont pointé le bout de leur nez, ma vie a été totalement bouleversée et je suis tombée en amour absolu devant les jumelles dans un premier temps, et puis ma dernière fille après. Donc ça, une vie faite aussi de fêtes, parce que j'aime faire la fête, de réception avec les copines, de dîner, d'exposition, de voyage. Une vie hyperactive. Madame Wonder Woman, j'étais vraiment celle qui n'a jamais de col enfilé. Je me débrouillais toujours pour que tout marche et pour tout organiser. avec peut-être un peu trop de rigueur et un peu emmerdeuse sur les bords parce que ben, quand on fait tout, il faut un peu de structure pour que ça marche. Mais globalement, ça marchait. Les enfants avaient tout ce qu'elles voulaient, probablement même avant qu'elles le demandent. Mes copines se marraient bien avec moi, mes copains, mes amis étaient contents de venir me voir. Et dans mon boulot, ça marchait, même si j'étais probablement une vraie enquiquineuse et pas la patronne la plus sympa que j'aurais pu être. Mais à l'époque, j'étais dans une logique de combat. Et mon mari continuait son aventure d'entrepreneur ou ses affaires, mais s'occupait pas tellement de gérer ce qui était de mon domaine. Et toujours est-il qu'il y avait une personne dont j'avais totalement oublié l'existence là-dedans, c'est moi. Parce que paradoxalement, j'étais au service des autres, au service des entreprises, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, pour faire que la vie et les missions qu'on me confiait et la vie au quotidien marchent bien, soient organisées, que mes patrons soient contents, que ma famille soit contente, que mes amis soient contents. Mais moi, ma santé, ce dont je pouvais avoir envie vraiment, je ne l'écoutais pas et je l'avais mis sous silence. J'ai d'ailleurs, depuis mes 18 ans, un rêve enfoui, c'est celui d'être écrivaine, mais ça, ce rêve, bien entendu, je l'ai soigneusement enterré parce que peur d'écrire, peur de réussir, peur d'échouer, et puis aussi, voyons clairement que avec l'ambition sociale et financière que j'avais, c'est pas en étant écrivain que j'allais gagner ma vie. Donc tout ça, je l'avais mis dans un coin et j'écrivais à la place des plans marketing en anglais de 15 000 pages qui ne me réjouissaient que modérément. Avant, j'étais donc cette femme gâtée, même si pas complètement satisfaite, avec une famille, un mari, un job de rêve, des voyages, des copains, des copines, des réseaux de femmes, des activités et surtout une liberté de manœuvre totale. J'ai été Wonder Woman jusqu'au 14 octobre 2014. Depuis le 14 octobre 2014, en fait, je suis une rescapée. J'avais depuis l'enfance une scoliose, qui est ce que tout le monde a, une petite déformation de la colonne vertébrale, mais comme je n'avais pas pris soin de moi et de mon corps et de ma santé, tellement j'étais occupée à m'occuper de celle des autres, en fait, cette petite scoliose d'adolescente était devenue une double scoliose de 73 degrés et de double courbure. Et pour vous donner une idée, ce sont ces femmes que vous voyez passer dans la rue, le nez sur le trottoir, qui sont complètement courbées et qui ne peuvent plus marcher. Dans mon quotidien, après la maternité, en fait, j'ai commencé à avoir des sciatiques, des difficultés à marcher, mais je continuais. Et puis, un médecin, je pense, quand je devais avoir 40 ans, m'a dit « Madame, votre scoliose est en train d'empirer, il va falloir vous opérer. » Et je lui ai dit « Monsieur, mais même pas en rêve, salut et au revoir. » Et puis, j'ai continué, on m'a mis des corsets, je l'ai masqué tellement sous des grands châles, des grandes vestes, des grands pulls, etc., qu'aucune de mes copines, aucun de mes proches ne s'est aperçu de la destruction de mon corps que j'étais en train d'opérer. Mais disons qu'en 10 ans, mon corps de à peu près normalement constitué et faisant semblant est devenu quelque chose de tordu, au tel point que je n'arrivais même plus à tenir comme en aubane ma structure pour me retenir debout, pour marcher. Personne ne s'est rendu compte finalement. Moi, je suis dans le déni, c'est-à-dire que je masque totalement la déformation de ma colonne, je porte des châles, je mets des grandes vestes, je reste assise et je me planque, parce que je ne pouvais pas accepter le fait de lâcher et de ne plus être Wonder Woman et de ne plus être aux commandes de ma vie. Et puis, j'avais une trouille de folie, parce que je savais qu'il y avait, en fait, à ce moment-là, probablement qu'une solution, qui était une arthrodèse, c'est-à-dire une opération de la colonne vertébrale, qui est une opération énorme, où on vous met sur le ventre, on vous ouvre le dos, on prend votre colonne vertébrale, on la redresse comme on redresserait un mât, on met 2 tiges de métal, on reboulonne et on revisse. Et c'est une opération de 9 heures. Moi, je suis très forte. Quand je veux quelque chose, je le veux absolument. Et il faut vraiment que le destin me cogne sur la figure pour que j'arrive à dire « Ah oui, maintenant, il est temps de partir » ou « Ah oui, il est temps de se faire opérer ». Donc, il faut vraiment que je n'en puisse plus. C'est pour ça que je me prends des claques comme ça, parce que je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire tant que je vois encore un soupçon d'espoir. Je suis arrivée début 2014 au point de non-retour. Donc le 14 octobre 2014, je suis arrivée à l'hôpital de Garches, pétant de trouille, sachant d'une part qu'il n'y avait plus d'autre solution, et d'autre part toujours quelque part dans le déni, parce que on ne lâche pas comme ça ses bonnes habitudes. Mais on m'avait dit, vous savez, cette opération est risquée, certes, mais elle se passe d'habitude extrêmement bien, vous risquez quelques petits inconvénients, mais pas grave, et puis dans 3 mois, vous reprenez votre vie normale. Et puis vous serez en effet plus raide du torse, mais comme vous êtes bonne jambe, vous allez bien mieux vivre, il n'y a pas de souci. Je suis pétrifiée certainement de trouille à l'idée qu'on me tripatouille le dos, mais on m'anesthésie et j'en sors. Et j'en sors dans un coltard, le lendemain pas très bien, je me dis ça dure quand même longtemps cette réa, mais bon, vous êtes tellement shooté en réa que vous vous rendez compte de rien, et puis on me réveille vraiment, et là, au pied de mon lit, il y a ma famille, mon mari un peu gêné, et il y a surtout énormément d'hommes en blanc, de chirurgiens, de médecins, de ceci, de cela, le psychiatre, enfin tout, toute une série de mecs, et quand on voit au pied de son lit et qu'on sort d'une opération toute une série de mecs, faut pas se dire que c'est bon signe. Et ils me disent, voilà, madame, l'opération a réussi. Mais dans l'opération, votre moelle épinière a été lésée et il est probable que vous ne remarcherez jamais plus. Et de fait, je ne sens plus rien en dessous de la ceinture. C'est-à-dire, je ne sens plus mes fesses, je me pisse dessus, je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus mes pieds. On me pince, on me pique, je ne sais pas, on me les bouge, je ne sens rien. On me met debout, je peux pas marcher, je peux pas me tenir, rien. Et ben, en fait, il se passe un truc encore, c'est ce déni qui est à la fois une faiblesse et une force, et je me dis, ouais, c'est pas bon. Ça, d'un côté, oui. Mais d'un autre côté, ça doit être un mauvais rêve, et je vais me réveiller, et ça n'existe pas, et c'est pas possible que je ne remarche pas. Ils ont dû se tromper, et ça va s'arranger. Et puis ça dure à peu près 15 jours. Pendant ces 15 jours, je vois quand même que le truc s'arrange pas tellement. On m'annonce gentiment que je vais rester probablement 6-8 mois à l'hôpital, alors que j'étais partie pour rentrer chez moi. Je pense que à ce moment-là, que je suis plus mère, que je suis plus épouse, que j'ai plus de vie active, que j'ai plus d'autonomie. Qu'est-ce que vont faire mes filles? Comment je vais les voir? On va me voler 6 mois de leur vie, de la vie avec elles. Enfin, tout commence à arriver à ma conscience. Et un matin, je m'en rappelle très bien, je pique une prise de panique, parce que j'ai compris que là, on était dans le dur. Non, j'étais paraplégique. Et là, je commence à étouffer, à faire une crise de panique, un truc atroce, et je pars à ce moment-là pour 9 mois de rééducation, en effet, en hôpital, en vivant dans un hôpital, dans une chambre de deux, pourrie, sale, avec des gens, certains plus malades que moi, d'autres aussi malades, avec une vie où rien ne se passait, parce que l'hôpital, bon, il y a la visite des médecins le matin, mais de toute façon, vous attendez, vous passez votre temps à temps, ensuite vous allez en kiné pendant 1 heure, mais c'est qu'une heure par jour, ensuite de temps en temps, quand vous avez un peu d'énergie, quelques copains viennent vous voir, mais vous apercevez que ceux auxquels vous teniez vraiment et que vous pensiez être vos proches et être près de vous, vous ont abandonné parce que c'est juste insupportable pour eux de vous voir dans cet état. Ils me disent, vous ne marcherez probablement jamais plus. En fait, la première étape, c'est de vous remettre debout, de vous reverticaliser. Et c'est quand même un très long travail parce que, comme les cosmonautes, le corps a été trop allongé. Vous tombez dans les pommes, vous vomissez, etc. Le temps que la circulation se remette en état, vous vous apercevez que vous faites pipi dessous et que vous portez des couches. Donc, c'est quand même moyen confortable. Et puis, que vous ne pouvez pas aller aux toilettes toute seule. Ça vous change un peu la perspective de la vie. On vous pousse un pied, puis l'autre, puis ensuite, on vous apprend à vous lever d'un lit et à passer sur un fauteuil roulant. Puis quand vous avez maîtrisé le fauteuil roulant, on vous donne un fauteuil roulant électrique, et c'est pas la joie. Et puis vous essayez le déambulateur, et vous allez très lentement, et puis on vous apprend, en vous accrochant, à monter un escalier, les gestes du quotidien. Ça m'apprend aussi le temps, c'est-à-dire ce temps que je n'avais de jamais de faire quoi que ce soit, j'étais toujours en train de courir, de faire 15 trucs à la fois, etc. Ben là, il passait et j'avais des heures et des heures sur une table de verticalisation où rien ne se passait, personne ne me parlait, et où j'étais seule avec moi-même. Je pouvais même plus lire tellement j'étais crevée, j'ai pas question d'écrire, il n'y avait pas d'internet, donc de toute façon, à l'époque, à l'hôpital, c'était terra incognita. Ça m'apprend à vivre seule et à savoir que je suis vraiment seule avec moi-même. C'est-à-dire que, quel que soit l'environnement que je pouvais avoir par ailleurs, amical ou familial, il était 7h du soir, il n'y avait plus personne à l'hôpital, j'étais moi-même toute seule jusqu'à le lendemain, l'heure des visites. Donc la vie, elle se passait ailleurs, mon mari, mes enfants dînaient ensemble, mes amis se réunissaient pour des réunions, le monde évoluait, c'était au moment où il y avait les attentats, etc. Tout ça, vous le voyez à la télé, mais vous n'êtes plus acteur de la vie sociale, de l'aventure de l'humanité, vous êtes à part. Donc je me suis bien rendu compte que j'étais en train de faire un deuil. En fait, il n'y a pas d'épreuve au sens... Il n'y a pas une épreuve qui est plus forte ou plus belle ou plus atroce que l'une que l'autre. Chacun a l'épreuve qu'il a, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit un accident, que ce soit une paraplégie, que ce soit une maladie. Et la seule beauté de l'épreuve et le seul sens de l'épreuve, c'est le sens qu'on veut lui donner. Et moi, le sens que j'ai souhaité lui donner, c'était de vivre pleinement ce deuil, puisque il faut le vivre, le deuil de ce qu'on perd, de ce qu'on n'a plus, des manques qu'on va avoir, pour pouvoir avoir une chance d'après retrouver une nouvelle vie. Donc j'ai eu des périodes de colère, j'ai eu des périodes de tristesse immense, de dépression. Les mois passent et bon, j'ai des contacts de plus en plus fréquents avec la vie normale et je m'aperçois là, en rentrant chez moi, que ben non, je peux plus aller dans ma chambre parce qu'elle est à l'étage, que je vis sur un lit médicalisé dans l'entrée, que quand les gens rentrent et sortent, et ben ils passent à côté de mon lit, que si on m'a pas allumé la lumière, je peux pas aller l'allumer toute seule, que pour aller aux toilettes, il faut que quelqu'un m'aide. Je pense que mes filles ont été hyper choquées de cette mère toute puissance qui était devenue quand même un légume. Et que ça a été une douleur intense pour tout le monde. Elles ont fait le deuil de leur mère. Mon mari a fait le deuil d'une femme qui organisait tout, puisque je ne pouvais plus organiser. Moi, j'ai fait le deuil de mon pouvoir, j'ai fait le deuil de mes croyances, j'ai fait le deuil de ma vie active très rapidement. J'ai fait le deuil de mon indépendance. Je n'ai plus jamais, depuis 2014, décidé que j'avais envie, comme vous, comme les auditeurs, comme tout le monde, de prendre un café, donc pris mon sac, descendu un escalier, et aller allègrement au café du coin. Je ne sais plus ce que c'est ça. C'est une période qui est très douloureuse parce que il y a tout ce que vous voyez auquel vous n'avez pas accès, toute la vie que vous aviez avant qui vous rejaillit à la figure. Bon, c'est vrai que même encore aujourd'hui, quand je vois une femme de mon âge qui pique un sprint pour attraper un bus, je l'envie. Quand je vais dans une fête, j'adore aller dans des fêtes, discuter avec des gens, etc. Je peux pas aller discuter avec les uns les autres parce que je me casse la figure. Donc, si les gens viennent pas vers moi, je peux pas choisir de rencontrer ceux que je voudrais rencontrer. Et puis, vient le moment fatidique où tout le monde a envie de danser. Et moi aussi, j'ai envie de danser. Sauf que je ne peux plus. Donc, des manques et des pertes, je les assume, mais il y en a. Il y en aura toujours. On laisse dans sa vie une part de vide, qui est ce qu'on ne peut plus faire. Et à ce moment-là, il se trouve que, pas de façon linéaire, pas au moment immédiat, mais d'une façon ou d'une autre, on laisse une opportunité, une ouverture à la vie pour vous amener autre chose, qu'on ne connaît pas. Et l'inconnu, c'est un truc, c'est que c'est vachement angoissant. Et qu'on aimerait mieux négocier quelque chose qu'on connaissait un peu de course en sac, un peu de vie d'avant, même si elle n'était pas parfaite, au moins on la connaissait, on savait où on était garé. Sauf que c'est pas ça, il faut lâcher. L'accident en premier, il a révélé le fait que je ne pouvais plus espérer contrôler ma vie. Ça, Madame Wonder Woman, c'était juste terminé. Par contre, je peux espérer en maîtriser certains aspects si je les travaille, si je suis ouverte à la vie. Et ça s'est fait de façon assez paradoxale. Donc, à partir de, je pense, 2017, j'ai dû écrire un rapport d'expertise sur mon accident opératoire. Et finalement, j'ai écrit tellement de choses d'autres que ce rapport d'expertise s'est transformé en un livre qui s'appelle aujourd'hui « Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération », qui était le témoignage justement de tous ces sentiments, tout ce bouillonnement qui vous bouleverse, qui vous fout en l'air quand vous passez une épreuve telle que celle que j'ai passée. Et aussi comment on relativise en regardant les autres, en regardant ceux qui en ont plus, ceux qui en ont moins, ceux qui sont totalement paralysés, ceux qui ont une vie difficile, et on relativise ce qui vous arrive par rapport à cela. Au fond, qu'est-ce qu'il y avait dont je suis débarrassée et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de ma vie? Et tout ça, je commence à l'écrire. Cette envie d'écrire depuis mes 18 ans, elle s'était réalisée sans que j'en sois consciente, sans que je le fasse volontairement. Ce rapport d'expertise s'était transformé en un témoignage qui était extrêmement brut de décoffrage et vibrant sur le handicap, sur la mort, sur la maladie, sur l'hôpital, sur plein de choses et sur les réactions des uns des autres par rapport à tout ça. Et là, sur mon ordinateur, il y avait un bouquin. Il y avait un bouquin, je venais de mettre le point final sans savoir que j'avais fait un bouquin. Et j'avais deux solutions, ou je le laissais dans mon disque dur, je refermais mon ordinateur et on n'en parlait plus jamais, et le rêve de mes 18 ans, il était bien enterré, et ma vie à venir, elle était crapoteuse à souhait, ou je le sortais, je le montrais quand même à ma famille parce que ça parlait un peu d'eux, donc il fallait mieux avoir leur accord, et je l'ai eu d'ailleurs, et puis après je prenais le risque d'être public, c'est-à-dire qu'on me dise c'est mauvais, c'est bon, c'est nul, c'est on n'aime pas, et je l'envoie à des éditeurs, donc je choisis 4-5 éditeurs, pas de réponse, et 4 mois après, une réponse de Fauve qui me dit « Ok, on vous voit, on édite ». Et le bouquin, « Le roseau penchant », est sorti 3 ans jour pour jour, le 15 octobre 2017, après mon opération. Alors le destin, on n'y croit pas, mais là, il y avait quand même une belle synchronicité, disons. C'est pas le prix Goncourt ou Guillaume Musso, mais ce livre a vraiment conquis des lecteurs. J'ai encore des gens qui m'écrivent en me disant « ce livre m'a bouleversé, m'a aidé, me fait réfléchir à tel truc ». Et puis il a enclenché une mécanique à laquelle je ne m'attendais pas, parce que dans la foulée du livre, une de mes copines coach et dans les réseaux de diversité à l'international, Isabella Lénarduzzi, me dit « je fais un forum Jump avec 500 femmes à Paris, pourquoi tu viens pas leur parler de ce que tu as vécu avant ?» ta vie professionnelle, ton handicap, etc. Je dis ok, j'y vais, la fleur au fusil, je termine ma présentation de, mettons, une demi-heure en larmes, et là, je rouvre les yeux, les 500 femmes debout, en larmes et en train d'applaudir. J'étais dans une émotion de sororité et dans une onde d'amour qui était exceptionnelle, et ça me fait me dire que tous ceux qui m'ont rejeté ou qui peuvent me rejeter encore parce que je suis handicapé, parce que la vie est difficile, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ça, etc., ben c'est pas très grave parce qu'il y en a d'autres que je rencontre et que c'est chouette avec eux et qu'il y a quelque chose aussi à partager qui me dépasse, que je ne connais pas encore. Je réalise que tout est possible finalement durant l'été d'après, l'été 2018, où j'ai une copine, Martine Lejossec, qui me dit « Ah, ton livre, c'est formidable, mais il faut absolument que tu fasses un TEDx. » Et elle fait partie de l'équipe d'organisation du TEDx Single Woman. Un TEDx, c'est une structure d'organisation sur YouTube qui demande sur des thématiques de changement, de transformation, mais aussi technique, mais aussi émotionnelle, un témoignage ou un partage d'expérience sous une forme d'un pitch de 18 minutes maximum, moins si possible, sans notes, sur une scène en public. On me propose donc d'aller à Mogador, de déjà 2500 personnes, de monter sur scène. On me dit, on te mettra deux chaises, tu t'accrocheras à tes chaises. Ma présence à ce TEDx m'est confirmée à peu près 10 jours avant, donc j'ai aussi toute la mémorisation. À gérer mon équilibre, ma mémorisation qui n'était pas formidable, mon apparence physique, parce que je sortais quand même deux ans avant, j'étais à l'hôpital. Comme j'ai des problèmes physiques, par exemple, je n'arrête pas d'aller aux toilettes avant de monter sur scène parce que l'émotionnel passant par ce à quoi on pense, eh ben, je fais pipi autant qu'il est nécessaire. Bref, de fil en aiguille, je me retrouve le 3 décembre 2018 dans les coulisses du théâtre Mogador. Et je me retrouve sur ce rond rouge avec mes deux chaises, trou noir puisqu'on ne voit pas la salle, et je me lance et ça sort. Je fais ce TEDx, ça part des tripes, il y avait mes filles dans la salle, beaucoup d'émotions, et puis une salle qui applaudit, et je sors de là en me disant « Ouais, quand même, c'était chouette, mais pas plus que ça. » Les copines qui étaient dans la salle me disent « Ouais, c'était quand même très bien. » Je lui dis « Vous êtes gentilles. » Puis je me dis « C'est mes copines, de toute façon, elles sont sympas. » Et puis le TEDx est mis en ligne donc début 2019, et je me dis quand même, s'il y a 5000 vues, ça va être chouette. Et je passe 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, pour arriver un an après à 1 million de vues. Là, on le traduit quand même en sous-titres en anglais, en espagnol, en japonais, etc. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, il est à 2 400 000 vues. Pour un TEDx en français, je vous assure qu'à 50 000 vues, j'aurais été ravie. Donc, c'est vrai que le truc me dépasse. Beaucoup de monde s'en saisissent. Les gens à travers le monde me disent « Ah bah oui, j'ai eu votre TEDx » ou « Il m'a bouleversé ». J'ai surtout ce retour, comme pour mes livres, des gens qui le touchent, qui me disent « Je me reconnais, ça m'a fait réfléchir, merci ». Je me dis d'une part, en effet, il faut être quand même logique. Hein. Si j'ai la vie d'avant était très chouette, mais j'aurais jamais vécu ça, j'aurais jamais écrit ça, j'aurais jamais été sur cette scène si j'avais continué ma vie d'avant. Je ne mets pas une chape à la douleur, à la tristesse, au chagrin et à tout ce qui va avec l'épreuve. Mais on a des épreuves et il se trouve que d'une façon que je ne saurais expliquer, l'épreuve a deux bénéfices cachés. D'une part, elle oblige à des choix, à des pertes et donc à ouvrir à des opportunités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Écrire, faire des conférences, partager avec des gens pour lesquels c'est important et à qui ça fait du bien. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que, en 2018, je suis sur la scène de l'Olympia, comme Johnny, dans cette Olympiade totalement mythique où je ne pensais jamais me trouver. On vit un moment d'exception dans les coulisses de l'Olympia qui sont chargées de plein de choses. Et j'interviens, je reçois un prix Restart Awards sur la scène de l'Olympia. Je n'y aurais jamais cru. Et tout a continué comme ça. Et puis là-dessus, en 2021, les éditions Guitry et Daniel qui viennent me chercher, qui me disent « on veut faire un livre avec vous ». Je lui dis « ça tombe bien, moi j'ai aussi envie d'en refaire un autre ». Et on décide de prendre toutes les thématiques qui avaient émergé donc depuis le premier livre, qui était sur l'âge, qui était sur l'amour, qui était sur la spiritualité, qui était sur les choix dictés, qui était sur prendre sa vie en main, se réparer, bien entendu le féminisme et la place de la femme, la maternité, etc. Et d'en faire un livre en 13 chapitres qui s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves », manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie. En effet, je marche pas bien, mais si je peux partager, si l'expérience que je partage aide d'autres gens, c'est juste formidable. Ce livre opère des changements en moi, c'est-à-dire que à partir du moment où je dis « il est essentiel de s'aimer, de se respecter et que je m'aime et que je me respecte », ça veut dire que, par exemple, dans le domaine professionnel, il y a des choses que j'aurais fait ou par gentillesse, ou par complaisance, ou par lâcheté, que je ne vais plus accepter. Je n'accepte de faire que par exemple, des conférences où je me sens complètement alignée et avec les organisateurs et avec le public, et dans des conditions qui prennent en respect, notamment mon handicap. Dans ma vie amicale aussi, ça m'a amené aussi à faire des choix et à me dire que j'avais besoin d'être environnée, non pas de conseillers qui allaient me dire que l'opération que j'avais fait il y a des années était dangereuse, que ma vie était trop dangereuse, que j'avais fait des erreurs dans sa vie, mais de gens qui étaient dans une façon de penser beaucoup plus positive et généreuse et bienveillante, et qu'en effet, ben, je regrettais pour les amis passés qui n'étaient pas dans cette énergie-là, notre chemin ensemble était fini. Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment un sens à ma vie que je n'avais jamais rencontré avant. De cette manière, je peux dire que sans cette épreuve, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas écrivain, je ne serais pas heureuse, je serais encore insatisfaite probablement, je ne vivrais pas ici et maintenant comme j'ai appris à vivre, mais je vivrais probablement dans le passé. Aujourd'hui, je me fous du passé, je me fous du futur, je suis là, ici, maintenant, avec vous, il n'y a que ça qui compte, et c'est la seule chose dont on est sûr, puisque, je vous le rappelle, on est éphémère. Et comme on est éphémère, il faut comprendre que la seule chose qui est intéressante, c'est de donner du sens à la vie, de la magnifier, et d'en profiter pleinement sans se poser la question d'un demain qui risque de ne pas exister. Grâce à cet accident, il s'est passé un truc étonnant, puisque ma première naissance avait été quand même assez difficile avec la mort de mon frère jumeau. J'avais toujours vécu comme une survivante. Ça m'a en effet permis de survivre et donc d'être rescapée de cette épreuve. Mais encore plus, aujourd'hui, l'épreuve m'a amenée à me remettre au monde, à renaître. J'ai lâché toutes les parties de moi-même qui étaient au service des autres. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres, au contraire. Mais je ne suis plus à leur service, je suis à mon service, mais en m'aimant et en me respectant, je peux leur donner un amour beaucoup plus ouvert et bienveillant, sans d'ailleurs vouloir les sauver, parce qu'ils ne peuvent que se sauver qu'eux-mêmes. D'une façon générale, moi je pense qu'il n'y a ni regret ni remords, que tout ce qu'on a vécu, c'est exactement ce qu'on devait vivre au moment où on devait le vivre. Et il n'y a rien de ce que j'ai vécu avant, pendant l'accident opératoire ou après, que je renie, que je vivrais différemment, puisque je devais les vivre comme ça. Donc, la Nadalette qui était Wonder Woman, je ne lui en veux pas, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Celle qui a maltraité son corps, elle a maltraité son corps parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un corps. Bon, aujourd'hui, en effet, je sais que j'ai un corps, et notamment quand on me propose des choses à faire qui vont me mettre en danger de fatigue, d'épuisement, ou simplement de me casser la figure, je dis non, ce que j'aurais pas su faire avant. En cela, cet accident a été ma chance. Cet accident était ma chance de justement sortir d'une histoire qui n'était pas la mienne, sortir d'une vie qui n'était pas la mienne et qui m'avait été imposée et qui m'avait servi aussi, mais qui n'était plus possible pour retrouver véritablement ma vraie vie, ma vraie place et un alignement avec moi-même.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.